Messieurs, dames, voici le National sur Canal M. Alors, bonjour tout le monde et bon week-end pour ceux qui nous écoutent le samedi matin. Alors, toujours Christiane Campagna avec vous cette semaine à l'animation de cette nouvelle mouture 2018 du National, où nous parcourons différents médias du Canada francophone et vous lisons une sélection d'articles choisis dans toutes sortes de domaines de l'actualité. Aujourd'hui, on parlera de médias communautaires en milieu minoritaire. Je vous parlerai de la Maison Gabriel Roy. Je vous parlerai d'écoles francophones au Manitoba. Et on vous parlera culture, on vous parlera politique. Et tout ça, aujourd'hui, au National. Nous débutons avec un article tiré de L'Aquilon, l'hebdomadaire francophone du Grand Nord canadien, un article de Jean-Pierre Dubé de Francopresse. Après 10 ans et 20 millions de pertes en pub fédérale, après des années de pression pour corriger la situation, les groupes de médias en milieu minoritaire n'ont toujours pas l'oreille du gouvernement Trudeau. Confrontés à la perte de membres, ils ont lancé début janvier une proposition pour rencontrer les acteurs fédéraux autour de la table du commissariat aux langues officielles, le CLO. À Ottawa, le message a été reçu. Déjà, les trois groupes de médias ont rencontré le CLO le 11 janvier. « On a eu une oreille attentive », explique le président de l'APF, Francis Saunier. « Notre dossier est actif. C'est notre souhait de rencontrer les ministères fin février, début mars, lorsque le nouveau commissaire, M. Raymond Théberge, sera en fonction. Mais il n'y a pas de confirmation. » L'Association de la presse francophone, l'APF, l'Alliance des radios communautaires, l'ARC, et la Quebec Community Newspapers Association, la QCNA, ont publié le 4 janvier un message aux ministres Mélanie Joly de Patrimoine canadien et Carla Quattro de Services publics et Approvisionnement Canada, le SPAC. Leur but était d'inviter les ministères à une réunion de la dernière chance pour élaborer un plan d'action harmonisé. Au moment de publier, Francopresse a reçu un message conjoint des ministres Joly et Quattro, transmis par le relationniste Simon Ross de Patrimoine canadien. Selon elle, les médias communautaires sont essentiels à la vitalité des communautés de langues officielles. Nous remercions l'APF, l'ARC et la QCNA pour l'invitation et la considérons. Le rôle du commissariat est critique. Après avoir reçu de nombreuses plaintes des journaux et radios quant à la chute des pubs fédérales achetées via le SPAC, il a publié en juin dernier un rapport dénonçant la politique des ministères. Les achats d'espace ou de temps dans les médias doivent inclure les organes d'information qui desservent la minorité francophone ou anglophone. Les médias communautaires ont également reçu en juin l'appui du Comité permanent des langues officielles des communes. Puis en décembre, un rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales confirmait des anomalies dans la gestion des publicités et présentait 10 recommandations. Mais le gouvernement ne semble pas disposé à modifier son orientation qui consiste à diriger ses publicités vers les géants du web. La ministre Joly a mis de l'huile sur le feu en affirmant à plusieurs reprises l'an dernier que Patrimoine canadien n'allait pas appuyer dans la transition numérique des modèles d'affaires qui ne sont plus viables. Les journaux et radios en milieu minoritaire reconnaissent la tendance vers le numérique. Mais clament-ils dans leurs lettres, la situation des communautés linguistiques ne peut être comparée à celle des autres. Il est indispensable qu'à court et moyen terme, les médias communautaires puissent générer assez de revenus d'une plateforme numérique pour survivre et continuer à informer leur communauté. Francis Saunier continue à espérer. On s'est plaint et le commissaire nous a donné raison. C'est surprenant que les deux ministères n'aient pas réagi. La meilleure option, c'est de s'asseoir ensemble. Il faut d'abord réparer les torts et ensuite élaborer des mesures à long terme. Les organismes pensent déjà à l'étape suivante, sans exclure le recours juridique. On sait qu'il y aura un suivi en juin prochain au rapport du commissaire, note le président de l'APF. C'est déjà prévu. Si le rapport est favorable, on verra nos options à ce moment-là. L'Alliance des radios communautaires comptait 26 membres jusqu'à la fermeture de CKRP en Alberta le 20 novembre. Le secrétaire général François Côté s'était montré découragé de n'avoir rien en main après des années de lutte pour sauver des médias vantés sur la place publique comme étant des piliers de la vitalité des communautés. La vitalité va en prendre un coup si rien n'arrive, a-t-il lancé en décembre. Si au moins on pouvait dire aux membres qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais on n'a rien à leur dire. C'est une situation difficile à vivre. 8 radios seraient en péril. Tiré de l'Express en Alberta, départ à la retraite de la sénatrice Claudette Tardy. Une grande dame de la francophonie. S'il a été question de dualité linguistique dans les débats du Sénat, c'est en bonne partie grâce à la détermination de Claudette Tardy, une grande dame qui n'a jamais cessé de tout mettre en œuvre pour que le gouvernement respecte ses obligations en matière de langues officielles, a commenté le président de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, le FCFA du Canada, Jean Johnson. La sénatrice franco-albertaine vient d'annoncer qu'elle quittera le Sénat le 2 février pour passer plus de temps avec sa famille. Le président de la FCFA, originaire lui aussi de l'Alberta, rappelle que Claudette Tardy a siégé à la Chambre haute pendant 12 ans. Comme membre, puis comme présidente du Comité des langues officielles du Sénat, elle a passé au crible tous les éléments de la politique gouvernementale, des obligations linguistiques d'Air Canada à celles de Radio-Canada, pour enfin aboutir à un grand projet, la modernisation de la loi sur les langues officielles. Je suis particulièrement fière de mon implication pour l'avancement des dossiers de la francophonie en Alberta ainsi que pour l'ensemble du Canada, a-t-elle indiqué par voie de communiqué. La sénatrice Tardy a illustré comment le Sénat peut jouer son rôle de représentation des minorités au Canada, dit-il. Pour cette raison, d'ailleurs, la FCFA s'est toujours opposée à l'abolition du Sénat quand la question revenait dans les débats politiques nationaux. Claudette Tardy a été doyenne de la faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, où elle avait aussi étudié en enseignement. Active au sein de l'Association parlementaire Canada-France, dont elle a déjà été présidente, elle a reçu la Légion d'honneur française en 2016 et, entre autres prises et distinctions, l'Ordre des francophones d'Amérique en 2011, l'Ordre de la Pléiade en 2005, l'Ordre du Conseil de la vie française en Amérique en 2003.
Connais pas la crise, épanoui et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise, inlassablement se dévoile de mes doigts de palper. Palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances, abstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores. Le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour, s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos, là j'écoule à mes oreilles. Ma petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper, palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier. Escalier, c'est bâtiment B. À l'oreille de ses lèvres. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe
ami né, mais lui, là je coule à mes oreilles ma petite entreprise, que n'est pas la crise, épanouie et l'exhibe des trésors satinés, dorés à souhait. Lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. Lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube.
On se transporte maintenant au Manitoba, un texte tiré du journal La Liberté, un texte de Barbara Goran. Sébastien Gaillard, un nouveau directeur en plein enchantement, la maison Gabriel Roy est un bijou à sertir. Arrivé cet été avec femme et enfants depuis la Haute-Savoie en France, Sébastien Gaillard a pris cet automne la direction de la maison-musée dont il entend célébrer cette année le 15e anniversaire avec éclat. Car l'homme a du panache. Côté pile, il est Sébastien Gaillard, un nom qui sied comme un gant à ce grand bonhomme qui a brinque-ballé ses connaissances en art de la table des États-Unis à la Suisse, en passant par l'Algérie et les îles françaises, au gré des invitations. Côté face, il est Céréam, poète prolifique, auteur, monteur de spectacles, fondateur de la maison d'édition Une poignée de loups en laisse et de la revue La Tribune du Jelly Rogers, entre autres. Mais depuis le mois d'août dernier, il est néo-manitobain avant tout. Un choix qui ne s'est pas fait par défaut, mais bien par conviction, comme il l'explique. Avec mon épouse Vanessa et nos enfants Manon et Elliot, âgés de 15 et 17 ans, nous avions cette envie de recommencer au Canada. Nous nous sommes rendus au Québec, en Ontario et au Manitoba, où nous sommes arrivés en avril 2016. Immédiatement, on a trouvé cette province fabuleuse. La facilité des rapports, des rencontres, l'atmosphère de cette ville à taille humaine, le côté à la fois anglophone et francophone, on a été séduit. Au point de rentrer en Haute-Savoie, de régler les affaires courantes et de franchir l'Atlantique à nouveau l'été dernier, sans billet de retour cette fois. Le temps d'inscrire les enfants au collège Louis Riel, Sébastien se met donc en quête d'un nouveau défi professionnel. Rapidement, elle découvre que la maison Gabriel Roy se cherche un nouveau directeur. Évidemment, Gabriel Roy, ça m'a parlé tout de suite. C'est un symbole, un auteur qui fait l'unanimité à travers toute la francophonie de l'Amérique du Nord, traduite en 18 langues. Un enthousiasme sans doute contagieux, puisque le voici à la barre de l'institution depuis le 23 octobre dernier. Avec un cap bien défini, le 15e anniversaire de la Maison Saint-Gabriel en cette année 2018. Cette maison est un bijou, mais qu'il faut sertir. Elle n'est pas suffisamment mise en valeur. Je pense notamment à des programmes qu'on pourrait développer avec les scolaires. Mais en tout état de cause, pour fêter ses 15 ans, nous allons faire briller l'esprit de Gabriel Roy. À commencer par une exposition qui, par le truchement de la réalité augmentée, permettra d'aborder l'œuvre traduite de Gabriel Roy, détaille encore le nouveau directeur. Cela permettra de comprendre à la fois le travail d'auteur, mais aussi la difficulté périlleuse de la traduction et sa résonance. Pour donner un aperçu le plus large possible, j'ai déjà commencé à acquérir des ouvrages de Gabriel Roy en Chine, en Allemagne, en Tchécoslovaquie. Influencé par la dictée Michel Butor, du nom du poète et écrivain français qu'il avait initié en Haute-Savoie, Sébastien Gaillard a également lancé l'idée d'une dictée Gabriel Roy. Mais attention, il s'agit de transmettre l'amour de la langue de façon ludique, pas académique. L'idée est de piocher dans l'œuvre de Gabriel et de faire collaborer la francophonie dans cet exercice simultané en plusieurs lieux de Winnipeg, avec l'appui des organismes comme le CCFM, les divisions scolaires, et jusqu'à Québec, où la bibliothèque Gabriel Roy fêtera l'an prochain ses 35 ans et dont le directeur s'est immédiatement montré intéressé. Ajoutez à cela un documentaire en préparation pour donner la parole à ceux qui chérissent la mémoire de Gabriel Roy, un tanzaku, tradition japonaise qui consiste à imprimer des haïkus sur des bandes de tissu, qui devrait recouvrir la maison Gabriel Roy en mai, en mai, suivi d'un chemin de haïku dessiné sur les trottoirs de Saint-Boniface en septembre, des résidences d'artistes et des participations à diverses créations artistiques. Pas de doute, cette année, Gabrielle Roy sera reine au Manitoba. Toujours tiré du journal La Liberté au Manitoba, l'avenir du BEF, un rendez-vous sur Facebook. Une nouvelle page Facebook, Ensemble pour l'éducation française Manitoba, affiche un double objectif. D'abord, tenir parents et enseignants au courant de l'avenir du Bureau de l'éducation française. Ensuite, les inviter à l'action individuelle et collective. Rachel Laurendeau est un parent engagé. La résidente de Saint-Vital siège au comité scolaire de l'école Christine L'Espérance et a été membre du CA de la Fédération des parents du Manitoba de 2014 à 2016. La mère de deux garçons a reçu avec une vive inquiétude la nouvelle fin octobre dernier que le Bureau de l'éducation française, le BEF, avait perdu son sous-ministre adjoint et que le BEF était menacé de démantèlement. J'étais estomaquée. Peu après l'annonce de la nouvelle dans les médias, le comité scolaire de Christine L'Espérance a accueilli le commissaire de la DSFM, Michel Boucher. On lui a demandé ce qu'on pouvait faire. Il nous a souligné que les parties prenantes de l'éducation en français se mobilisaient et que pour le moment, aucune action n'était demandée aux parents. Il nous a cependant conseillé de rester aux aguets. Mordue des médias sociaux, Rachel Laurendeau était étonnée que peu de parents discutaient entre eux de la menace qui plane sur le BEF. Sur la page Facebook « Jeunes familles francophones du Manitoba » que j'ai créée en 2015, on en parlait à peine. Ailleurs aussi. Il fallait faire quelque chose pour sensibiliser les parents francophones et anglophones, ainsi que les enseignants. Il fallait aussi rappeler à nos organismes porte-parole que nous les appuyons. Il fallait aussi lancer un message à la province comme quoi on surveille ce qui se passe et que nous n'allons pas passivement accepter ce que nous dictent les décideurs politiques. Avant tout, il nous fallait un point de repère pour passer à l'action. Résultat, le 6 janvier, la page Ensemble pour l'éducation française Manitoba a vu le jour. Rachel Laurendeau y a tout de suite posté les coordonnées des députés provinciaux et des ministres de l'Éducation et des Affaires francophones. C'est à nous tous de préciser aux politiciens que le BEF est important. J'invite tous à poser un geste individuel en contactant vos représentants. Une invitation qui semble avoir déjà retenu l'attention, puisqu'après 2 semaines, la page comptait 405 membres. Pour moi, c'est énorme. Ça m'a pris 3 ans pour avoir 850 membres sur la page Jeunes familles francophones du Manitoba. Rachel Laurendeau invite donc le public à non seulement fréquenter sa page Facebook, mais à s'activer pour organiser des gestes collectifs. J'ai créé la page, mais tous peuvent passer à l'action. En attendant, j'ai des nouvelles des organismes porte-parole. Pourquoi ne pas lancer une pétition? Le sort du BEF n'a toujours pas été tranché. Peut-être faudra-t-il qu'on se mobilise pour d'autres actions collectives. Si la province venait à organiser des consultations publiques, la page Facebook servira à faire comprendre que la participation d'autant de parents que possible est non seulement souhaitable, mais nécessaire. Votre animatrice aujourd'hui est aussi la responsable du site web de Canal M. J'ai vérifié, pour le BEF, il s'agit en fait d'un groupe Facebook et tout à l'heure, vous aurez le lien sur la page Facebook de Canal M.
Yeah.
Voici maintenant une nouvelle littéraire tirée de l'Acadie Nouvelle. Herménégilde Chiasson vivra une année littéraire importante. Herménégilde Chiasson fait paraître son 52e livre, Voyages et rêves, qui rassemble des textes écrits sur plusieurs années, incluant des reproductions de quelques-unes de ses œuvres visuelles. Ce recueil est publié en édition limitée et numérotée par une entreprise de Victoria en Colombie-Britannique. Petit recueil de 45 pages, publié sous la forme d'une plaquette, Voyages et rêves s'apparente en quelque sorte à un livre d'art, un peu comme des estampes. Je pense que c'est peut-être le destin des livres maintenant. Ils vont être plus soignés parce qu'il y en aura moins et les gens lisent beaucoup en ligne. J'aime ce format parce qu'on arrive à garder l'unité du livre, a partagé l'auteur. Ce nouvel ouvrage de l'artiste multidisciplinaire de Grand Barachois regroupe 6 textes poétiques narratifs. Comme le titre l'indique, ce sont des récits liés au voyage ou inspirés des rêves du poète. Par exemple, le texte « Brook par Brook » qui ouvre le recueil a été écrit pendant qu'il occupait le poste de lieutenant-gouverneur. À cette époque, il écrivait beaucoup sur le siège arrière du véhicule de fonction. Dans la seconde partie sur les rêves, il raconte une histoire à propos d'un voyage en voiture avec son père. Il y a aussi un court récit sur un concours d'Évangeline et Gabriel en Belgique, l'une des rares fois de sa vie où il a rêvé de l'héroïne fictive, soulève-t-il. Ce sont de vrais rêves. Je suis quelqu'un qui ne me souvient pas souvent de mes rêves. C'est soit le matin en me levant que je les note ou bien dans la nuit si c'est vraiment saisissant. J'en ai pris 3 que je trouve qui ont une connotation acadienne, a-t-il expliqué. Ce 52e livre de l'auteur acadien est publié chez Frog Hollow Press à Victoria dans une collection d'ouvrages signés par des auteurs néo-brunswickois. L'éditeur Shane Nielsen, qui est originaire du Nouveau-Brunswick, a eu envie de contribuer pour redorer l'image de la province. Comme dans les prairies, les auteurs des Maritimes sont dans une situation géographique qui les désavantage par rapport au reste du pays, estime-t-il. Il a donc créé une série littéraire sur le Nouveau-Brunswick. À ce jour, il a publié 3 auteurs anglophones et un auteur francophone. Il a choisi de publier le recueil d'Herménégilde Chiasson uniquement en français, estimant qu'il s'agit là d'un geste politique. Je tenais à inclure un auteur acadien parce que je crois passionnément qu'il doit y avoir plus de travail interculturel au Nouveau-Brunswick, a soutenu l'éditeur. Il souhaite publier d'autres auteurs acadiens, mais pour l'éditeur anglophone qui gère une entreprise souvent à perte, cela représente quand même quelques défis. Il a contacté Herménégilde Chiasson en raison de sa grande influence dans la Renaissance acadienne. Je connaissais ses écrits et pour moi, c'était un choix naturel, a-t-il mentionné. Herménégilde Chiasson considère qu'il devrait y avoir plus d'échanges culturels au Nouveau-Brunswick, en traduisant les auteurs, qu'ils soient francophones ou anglophones. Peu d'écrivains acadiens ont été traduits en anglais. C'est dommage parce qu'on est dans une province bilingue et on a intérêt à savoir ce qui se passe dans la tête des autres. Il a commenté l'auteur qui multipliera les projets littéraires en 2018. La version anglaise de son premier recueil « Mourir à Skoudouk », qui avait été publié pour la première fois en 1974, s'appelle « To Live and Die in Skoudouk » et paraîtra bientôt chez Goose Lane. L'éditeur reprend la version publiée par les éditions Personnages en 2017. Par ailleurs, l'auteur présentera des lectures en Belgique au mois de février pour ensuite s'envoler vers l'Argentine, où il participera au Festival international de poésie de Buenos Aires. Les éditions de La Grenouillère à Montréal publieront aussi une rétrospective de son travail dans le cadre de leur collection classique au 21e siècle. Complète cette première demi-heure du National. On se retrouve après la pause pour d'autres articles des médias du Canada francophone. Si vous voulez réentendre l'émission pour réentendre certains articles, vous pouvez vous rendre au canalm.vusezvoix.com. Le National, deuxième partie. Rebonjour tout le monde, toujours Christiane Compagna avec vous en cette édition du 27 janvier du National. Au cours de la prochaine demi-heure, nous vous lirons des articles sur un centre de pédiatrie sociale au Nouveau-Brunswick. Nous parlerons de Belle pour la cause. Nous parlerons un petit peu de code. Je vais aussi vous lire des articles provenant de Toronto ainsi que des articles sur la ville d'Ottawa.
Dans mon angle mort.
Il y a le site du Moniteur acadien qui nous apprend qu'un nouveau centre de pédiatrie sociale fera son apparition au sud-ouest du Nouveau-Brunswick. Sous la direction de la pédiatre Hélène Deschênes, le premier centre de pédiatrie sociale en communauté au Nouveau-Brunswick, soit le Centre de pédiatrie sociale sud-est, le CPSSE, vient d'être implanté à Memramcook. Le CPSSE est basé sur le modèle des centres de pédiatrie sociale en communauté du Dr Julien au Québec. La pédiatrie sociale en communauté est une approche de médecine sociale centrée sur les besoins de l'enfant et qui met l'accent sur ses forces ainsi que celles de sa famille et de sa communauté. Cette approche rassemble les expertises de la médecine, des sciences sociales et du droit en vue de dépister, réduire ou éliminer les sources de stress toxiques ou facteurs de risque qui affectent le développement et le bien-être d'un enfant issu d'un milieu de vie difficile. Une équipe du groupe de recherche interdisciplinaire sur la santé mentale des enfants et des jeunes sera chargée d'évaluer l'implantation, la fidélité de mise en œuvre, les impacts et le rapport coût-efficacité de l'initiative sur une période de 10 ans. Nous passons maintenant au carillon de Hawkesbury, un texte de Caroline Prévost, Suzanne Filion, porte-parole d'une belle cause. La journée Belle cause pour la cause se déroulera le 31 janvier prochain, une journée où tous sont invités à se joindre à la conversation sur la santé mentale. Cette journée est une occasion pour les Canadiens d'un bout à l'autre du pays d'envoyer des messages de soutien aux personnes vivantes avec des problèmes de santé mentale, de partager leurs témoignages personnels et de suggérer des façons d'améliorer la santé mentale de chacun. Suzanne Filion, psychologue clinicienne et directrice du développement stratégique et de l'intégration à l'hôpital général de Hawkesbury et District, est une des personnes qui participera à la grande conversation, puisqu'elle est porte-parole experte de Belle Cause pour la cause. Durant cette journée, son rôle sera de se rendre disponible afin de répondre à toutes questions concernant la santé mentale, que ce soit des questions générales ou plus spécifiques. Moi, en tant qu'experte, j'offre tout simplement ma disponibilité pour qu'on m'interroge, qu'on me pose des questions par rapport à quoi que ce soit. Il y en a qui seront plus spécifiques, par exemple, où est le traumatisme, d'autres seront à propos de la dépression ou de la luminothérapie, et pour d'autres, ce sera sur la stigmatisation, a précisé la Dr Filion. Pendant la journée Belle Cause pour la cause, Belle versera 5 cents au profit de programmes canadiens en santé mentale pour chacune des interactions suivantes. Chaque message texte envoyé et chaque appel interurbain ou mobile effectué par les clients de Belle Canada, de Belle Alliant et de Belle MTS, chaque tweet utilisant le mot-clic Belle Cause ou Belle Let's Talk dans sa version anglophone, chaque visionnement de la vidéo thématique sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, chaque utilisation du cadre Belle Cause pour la cause sur Facebook, ainsi que chaque utilisation du filtre thématique sur Snapchat. Un montant de 2 millions sera ensuite versé à des organismes communautaires voués à la santé mentale afin d'améliorer les soins et l'accès aux soins. Les organismes peuvent alors soumettre leurs demandes afin de recevoir un montant entre 5 000 et 25 000 $ en visitant le bell.ca/cause. Les autres fonds seront investis dans les autres piliers de Belle Cause pour la cause, soit la lutte contre la stigmatisation, la recherche et la santé au travail. Un autre petit, autre filet, en fait, tiré du carillon de Hawkesbury. Les élèves de l'école élémentaire publique Nouvel Horizon de Hawkesbury ont pris part récemment à l'activité « Une heure de code » qui touchait plusieurs millions de jeunes dans le monde. L'objectif était de les initier à la programmation et à la robotique. L'école a fait 3 blocs d'une heure pour les élèves qui ont eu la chance de vivre l'heure du code. À la fin de la journée, ceux et celles ayant réussi le module de l'heure de code ont obtenu en récompense des badges et des autocollants. Des prix ont été remis également aux élèves pour les 2 objectifs de la journée, la persévérance et la résolution de problèmes. Tous les élèves l'ont fait, pas seulement nos vieux. Pendant toute une journée, les enfants étaient au gymnase de la maternelle à la 6e année, a précisé Joëlle Marlot, directrice de l'école, afin de faire remarquer la forte participation des enfants.
Ton cœur est un robot qui crie sa soif. Ton emport en bocal avant de te ramasser avec un flat. Faudrait que tu passes au stade. Ton histoire se résume en un trait noir de goudron de carbone. Tu laisses dans un nuage qui grimpe des airs. Le monde qui s'étonne de te voir.
Corbillard, assis dans bonne chambre.
Nous allons maintenant du côté de Toronto. Le Métropolitain nous parle d'un programme d'appui à la francophonie qui donne des ailes à 57 projets. Un texte de Rudy Chaban. 57 projets bénéficieront du programme d'appui à la francophonie de l'Ontario, le PAFO. La ministre des Affaires francophones Marie-France Lalonde l'a rendu public aujourd'hui au Collège Boréal à Sudbury, la liste des récipiendaires. Initié en septembre dernier, le PAFO est un fonds d'$1 million par an sur 3 ans, destiné à soutenir la mise en œuvre d'activités culturelles et communautaires servant les francophones. Les organismes communautaires ont donc disposé de très peu de temps pour constituer leur dossier et détailler leurs projets répondant aux 5 critères, soit faciliter l'intégration sociale, le réseautage et le bénévolat au sein des collectivités francophones, réduire les obstacles auxquels les groupes vulnérables sont confrontés, offrir des possibilités de célébrer la francophonie ontarienne et de favoriser la compréhension à son égard, renforcer les capacités des organismes francophones et favoriser la collaboration entre fournisseurs de services afin d'offrir de meilleurs services aux communautés francophones. Dans la région de Toronto, une 15aine d'organismes ont reçu jusqu'à $100 000 de subventions pour dynamiser la vie communautaire. Leur événement ou leur programme tourné vers la condition féminine, la jeunesse, la culture ou la santé ont convaincu le ministère. Le groupe artisanal féminin francophone de l'Ontario à Scarborough mettra en place des formations pour les femmes afin qu'elles puissent à leur tour sensibiliser les nouvelles arrivantes francophones et leur enseigner la culture et l'histoire franco-ontarienne. L'Argana développera le potentiel et l'entrepreneuriat féminin en fournissant des renseignements sur les ressources et les possibilités offertes au cours de quatre ateliers de motivation organisés à Toronto et à Welland. L'Association des femmes canadiennes françaises d'Oshawa a reçu 2 subventions. L'une afin d'organiser une série de manifestations, dont une conférence dans le cadre de la Journée internationale des femmes, et l'autre pour célébrer 60 ans de bénévolat en appui des femmes franco-ontariennes d'Oshawa via une série d'événements spéciaux. La Maison d'hébergement pour femmes francophones réalisera quant à elle une vidéo sensibilisant à la violence faite aux femmes et présentant les ressources qu'offre la maison. La vidéo s'adressera spécifiquement aux femmes nouvellement arrivées. Basé à Toronto, le mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones appuiera durant 1 an la présentation des journées audiovisuelles qui auront lieu à Ottawa du 11 au 18 octobre pour célébrer les réalisations des Canadiennes. Le Club canadien de Toronto organisera son prix relève Théo inaugural qui bénéficiera du soutien de commanditaires clés du milieu des affaires et ciblera 200 entrepreneurs, fera appel à 35 bénévoles et attirera 10 000 internautes sur son site Web. L'Association des bibliothèques de l'Ontario proposera à 5 000 élèves des écoles francophones et d'immersion des visites virtuelles d'auteurs et de bibliothèques, ainsi que des rencontres avec des illustrateurs au Festival des arbres de Toronto. Le projet de l'Association des francophones de la région de York consistera, pour de jeunes francophones, à recueillir des leçons de vie et des récits de personnages âgés pour les transmettre à la postérité. Et ils découvriront l'histoire de leur communauté tout en acquérant une nouvelle expérience pratique dans la technique d'entretien et de production vidéo. AproResco Éducation développera une initiative de soutien pédagogique sous la forme de tuteurs pour 50 élèves des écoles Saint-Noël-Chabanel et Saint-Jean-de-la-Lande qui rencontrent des difficultés d'appréhension du système éducatif ontarien. Le Regent Park Focus Youth Media Arts Center mobilisera un groupe de personnes âgées résidentes de Regent Park et les jeunes du Centre communautaire des Africains francophones de Toronto afin d'élaborer une série télédiffusée qui célèbre la diversité culturelle. Le groupe d'amitié et entrepreneuriat offrira à 200 jeunes immigrants et 100 parents divers ateliers et séminaires pour les aider à mieux s'intégrer à leur nouvel environnement et à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants en vue de lutter contre le décrochage. Le Conseil des organismes francophones de la région de Durham organisera l'Union fait la force, une célébration culturelle organisée à Durham qui vise à unifier les francophones de tous horizons par la création d'un tableau comme point focal de plusieurs manifestations, notamment des concerts, des pièces de théâtre, une conférence et des ateliers. Francophonie en fête corporation organisera la journée afro-caribéenne avec pour objectif d'attirer et d'intégrer les immigrants francophones et les francophiles de la région de Toronto. Le Théâtre français de Toronto conservera et créera 4 vidéos afin d'aider les élèves et leurs enseignants à comprendre chaque étape du processus théâtral, du concept à la production. La compagnie torontoise Bouchard Danse immergera les jeunes dans des danses ancestrales franco-ontariennes via des ateliers de danse et la représentation d'œuvres traditionnelles à la chorégraphie contemporaine à Wellington et Toronto. Afrique Nouvelle Musique orchestrera un spectacle musical et théâtral inspiré par la poésie de la communauté, dirigé par 5 créateurs professionnels qui exercent dans la dramaturgie, la littérature, la danse, la musique et le chant, avec un groupe de 5 artistes émergents et une trentaine de jeunes. L'Agence franco-canadienne de développement et d'intégration organisera le Rumba Fest World Music Festival 2018 dans le but d'appuyer la mise en œuvre des activités culturelles servant la communauté franco-ontarienne. Enfin, Entité 4 proposera une série de 3 symposiums à Barrie, Markham et Whitby intitulés « Cap sur votre santé » visant à promouvoir la nécessité de services de santé en langue française auprès des fournisseurs de soins de santé. Toujours dans le métropolitain de Toronto, une nouvelle école secondaire francophone dans l'Est torontois. Un texte de Rudy Chaban. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui la création d'une nouvelle école secondaire de langue française d'une capacité de 500 élèves dans l'Est de Toronto. 16 millions seront octroyés au conseil scolaire Viamonde pour réaliser l'opération. C'est une excellente nouvelle. Cela faisait plusieurs années qu'on voulait une école pour répondre à la demande et on voit enfin le bout du tunnel, estime Jean-François Lheureux. Le président du conseil scolaire Viamonde espère mettre en œuvre le plan d'affaires présenté en novembre dernier à la communauté, l'achat et la rénovation de l'école Greenwood, délaissée par le Conseil scolaire public anglophone de Toronto, située entre East York et les Beaches, à proximité de l'avenue Danforth. C'est un bon début, confie Liane Doucet, parent d'élèves et membre de la Coalition pour l'école secondaire de quartier. En débloquant des fonds, le gouvernement reconnaît un besoin dans la communauté. On attend tout de même de voir si cette école offrira des services comparables aux établissements anglophones du secteur. C'est notre priorité. Pétition, lettre au ministère de l'Éducation, recours en justice. Depuis 2007, de nombreux parents d'élèves de l'Est torontois se mobilisent comme elles pour que leurs enfants puissent poursuivre leurs études secondaires en français dans cette partie de la ville, dans une école équivalente aux autres. Le projet Greenwood les laisse néanmoins dubitatifs, au point de ne pas retirer le recours auprès de la Cour supérieure de justice de l'Ontario déposé au printemps dernier. Viamonde a l'opportunité d'offrir à la communauté ce dont elle a besoin pour freiner l'assimilation, mais si le fonds va au projet Greenwood, il reste du travail à faire, car il ne prévoit à notre connaissance ni auditorium, ni pelouse, ni cafétéria. Nous avons fait plusieurs propositions pour d'autres emplacements et nous restons ouverts à la discussion avec Viamonde et le ministère, a ajouté Mme Doucet. Greenwood est toujours notre plan A, affirme M. Lheureux, pour que l'édifice occupe un emplacement de choix au cœur d'une zone à forte demande et à proximité d'une station de métro. Cependant, un partenariat avec la ville de Toronto reste à nouer pour obtenir l'usage du parc situé en face, précise-t-il, souhaitant aller rapidement de l'avant. On peut envisager une ouverture en 2021. On attend les détails sur l'utilisation du fonds et on continuera de consulter les parents qui se sont beaucoup impliqués dans le dossier. La création de cette école offrira aux parents davantage d'options afin d'assurer à leurs enfants une éducation de qualité en français près de chez eux, déclare de son côté la ministre des Affaires francophones, Marie-France Lalonde. Cet investissement représente une étape majeure alors que notre gouvernement planifie une augmentation significative des programmes d'éducation de langue française pour la population francophone grandissante de la région de Toronto. Cette annonce acte la création de la 5e école secondaire francophone à Toronto et s'inscrit dans le cadre du nouvel investissement provincial de 784 millions destiné à la création de 39 nouvelles écoles ainsi qu'à la rénovation et l'agrandissement de 40 autres. 22% de ces aménagements concerneront des établissements francophones, a précisé la ministre lors d'un récent déplacement à Hamilton.
Salut, monsieur astronaute, flottant dans les cieux. J'espère que ce n'était pas triste quand tu as dit adieu. Salut, monsieur astronaute, flottant dans les cieux. Durant l'ascension, tu es disparu. Je suppose que tu existes, mais je ne t'ai jamais vu. tu es disparu. Quand tu regardes vers la terre, vois-tu tous ces gens qui cherchent des réponses à leurs questions? Si oui, peux-tu y répondre? On a besoin de quelqu'un qui pourrait nous sauver ou bien nous dire la vérité. Salut, monsieur astronaute. Comment va mon père? Est-ce que la vie est paisible là-haut dans l'univers? Salut, monsieur astronaute, comment va mon père? La vie sur Terre est si lourde, je voudrais me laisser flotter dans l'infini comme un oiseau. Monsieur, j'ai mal à la tête, je veux partir d'ici. Dans une fusée qui monte là-haut, j'aimerais être un astronaute. Salut, monsieur astronaute, quand reviendras-tu? Nos yeux sont fixés au ciel, tu es attendu. Salut, monsieur astronaute, qu'es-tu devenu? Salut, monsieur astronaute, quel que soit le jour. Salut, monsieur astronaute, j'attends ton retour.
Ce n'est pas avec un astronaute que s'est entretenu Daniel Leblanc du journal Le Droit, mais plutôt avec le maire d'Ottawa, plutôt Jim Watson. Alors, ce que je vais vous lire, c'est une entrevue, alors je vais alterner entre questions et réponses. Quel est le plus grand défi qui attend la ville d'Ottawa en 2018? Certainement l'achèvement de la ligne de la Confédération. C'est le plus grand projet dans l'histoire de la ville et nous sommes à quelques mois de lancer le service. Ça va changer le visage de la ville. Pourquoi les citoyens devraient-ils vous faire confiance en vous réélisant pour un troisième mandat en octobre? Parce que j'ai un historique d'action. J'ai contribué à la réalisation de plusieurs projets, comme la construction du train léger, la rénovation du parc Lansdowne, l'assainissement de la rivière des Outaouais. J'ai fait des promesses réalistes et je suis fière de les avoir respectées. Vous avez eu des ennuis de santé depuis quelques années. Comptez-vous effectuer un troisième mandat advenant votre réélection? Oui, absolument, c'est mon objectif. J'ai beaucoup d'énergie et plusieurs citoyens m'ont envoyé des commentaires positifs quand j'ai annoncé que je sollicitais un autre mandat il y a un an. Je fais partie des politiciens qui aiment les élections. C'est un peu comme passer une entrevue pour un emploi, mais avec près d'un million d'employeurs. Comment peut-on s'assurer que les touristes ne désertent pas Ottawa après une année comme 2017? On a travaillé avec Tourisme Ottawa et le Centre Chat pour continuer à attirer des congrès, de grandes réunions et des activités sportives, par exemple. C'est certain qu'il n'y aura pas des activités d'envergure comme en 2017, car c'est impossible de faire ça chaque année, mais on va continuer d'investir de l'argent pour attirer des événements. Si vous deviez choisir une seule activité d'Ottawa 2017 et la rééditer chaque année, ce serait laquelle et pourquoi? C'est un choix difficile, mais je dirais probablement la machine. C'est incroyable qu'on ait réussi à attirer 750 000 personnes. Ça nous a permis d'avoir de la visibilité à l'échelle internationale. C'était plaisant pour autant pour les enfants, les familles que les aînés. Est-ce qu'il y aurait dû y avoir davantage de consultations publiques dans le dossier du refuge de l'Armée du Salut à Vanier? Il y a eu des réunions dans la communauté et 150 personnes ont exprimé leur opinion au comité d'urbanisme. C'est un dossier émotionnel pour les gens, mais ma responsabilité est de suivre la loi et celle-ci dit que chaque organisation a le droit de demander un changement de zonage. Les citoyens ont aussi le droit de contester la décision du conseil. On verra ce que la Commission des affaires municipales de l'Ontario décidera. Vous vous êtes lancé en politique il y a près de 30 ans. Si vous aviez à comparer, qu'est-ce qui est le plus difficile à notre époque pour un politicien? probablement les médias sociaux avec Facebook, Twitter et Instagram. La majorité du temps, les médias sociaux apportent du positif, sauf que parfois des citoyens nous posent des questions pointues en croyant qu'on peut répondre en quelques minutes, alors que c'est impossible. Enfin, vous dites croire en l'avenir des sénateurs à Ottawa. Pensez-vous qu'ils évolueront sur les plaines le breton d'ici 5 ans? Je ne sais pas quand exactement, car il y a encore beaucoup de négociations à avoir entre les partis, mais personnellement, je crois que ce sera bénéfique d'avoir un aréna plus près du centre-ville. Ce sera meilleur pour l'équipe et pour les partisans. Ça va aider à augmenter l'assistance. Je pense que le projet pourrait devenir réalité d'ici 4 ou 5 ans. C'était Le National avec Christiane Campagna à l'animation et à la recherche. Et c'était Mathieu Tessier à la technique. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine.